15h. Virginie Langeroc.
À Blatten en Valais, l'eau du lac passe désormais au-dessus des éboulis. La situation est donc un peu moins inquiétante. Après l'effondrement hier du glacier du Birch qui a totalement englouti le village, l'eau de la rivière Lonza, retenue par les tonnes de débris tombés sur le village, a commencé à se frayer un passage vers l'aval. Au fur et à mesure des heures qui avancent, on peut réduire le risque d'un scénario catastrophique, assure le géologue cantonal Raphaël Mayora. On sait toutefois que l'on doit garder en tête un tel risque. Plus en aval, le barrage de Ferden a été totalement vidé. Il est prêt à retenir jusqu'à 1,5 million de mètres cubes d'eau, de glace et de gravats qui pourraient se déverser depuis le village de Blatten. À Gampel et Steg, deux localités situées en aval, des digues sont installées. La population est invitée à se préparer à une éventuelle évacuation. Le ton monte entre Israël et la France. Israël accuse le président français d'être en croisade contre l'État juif. Ce matin, le président français a assuré que la reconnaissance d'un État palestinien sous condition n'était pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Actuellement en visite en Asie du Sud-Est, le président français a répondu « Si nous abandonnons Gaza et laissons faire Israël, nous perdons toute crédibilité à l'égard du reste du monde ». C'est ce qu'a précisé Emmanuel Macron qui assiste à un forum sur la défense à Singapour. Au Nigeria, des pluies torrentielles ont emporté hier soir des dizaines de maisons dans une ville du centre du pays. Le bilan des inondations est d'au moins 88 morts. L'inflation en Allemagne est restée stable ce mois de mai sur un an, aidée par le recul des prix de l'énergie. L'indice des prix à la consommation a atteint un peu plus de 2% sur un an. De quoi rassurer la Banque Centrale Européenne qui devrait décider la semaine prochaine d'une possible nouvelle baisse des taux d'intérêt. La police cantonale bernoise a découvert tout récemment trois plantations de chanvre contenant au total 3000 plants à Röttingen et Darmstetten dans l'Oberland bernois. L'exploitant présumé, un homme de 49 ans, a été arrêté. Il a été déféré devant la justice. En plus des plants de chanvre, la police a trouvé plus de 27 kilos de marijuana séchée, prête à la consommation, et plusieurs armes. La drogue a été détruite. La police a saisi les armes découvertes et a ouvert une enquête. L'auteur balois Alain-Claude Sulzer reçoit le prix de littérature dans le cadre des 47e journées littéraires de Soleure. L'œuvre d'Alain-Claude Sulzer comprend à ce jour une douzaine de romans et de nombreux textes en prose. Il a déjà été récompensé par de nombreux prix, plutôt à l'étranger, notamment le prix Médicis étranger en France, le prix Hermann Hesse en Allemagne. En Suisse, il a reçu le prix de l'œuvre individuelle de la Fondation Schiller Suisse et le prix culturel de la ville de Bâle. Plusieurs de ses romans sont traduits en français et dans de nombreuses langues. Le temps aujourd'hui, du soleil avec de timides cumulus cet après-midi en montagne. En plaine, il fera un maximum de 26 degrés. Le week-end s'annonce également très estival avec des températures qui pourront aller jusqu'à 28 ou 30 degrés. Des nuages vont malgré tout se former l'après-midi en montagne, demain et dimanche. Il pourrait y avoir des averses ou des orages isolés sur les reliefs, surtout le long du Jura et des Préalpes. Orages ou averses qui pourraient déborder en plaine pendant la nuit. Et puis le début de la semaine prochaine sera perturbé avec des pluies fréquentes qui feront légèrement baisser les températures.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter RTS Couleur 3, bienvenue dans Superflu pour 2 heures de pop culture. Ça va parler Netflix, Insta, musique, cinéma, PlayStation et culture japonaise. Jusqu'à 17h, on aborde une certaine actualité portée par l'équipe de la semaine, à commencer par la plus féminine de l'équipe, je la fais quand même, Nolwenn Gorgoni.
J'espère bien.
Salut Nolwenn, ça va?
Salut, ça va et toi?
Oui, on est très content de t'avoir jusqu'à 17h pour nous parler d'un politicien français.
Par exemple.
Si on peut encore parler
en deuxième
de
heure.
Politicien. Lui revient du Japon et il a des choses à nous dire. C'est Laurent Dormont.
Hello, salut à tous, vous m'avez manqué.
Ouais, bah toi aussi, tu nous parles pas en japonais. Comment on dit bonjour?
Konnichiwa.
Konnichiwa, c'est vraiment ça, bonjour.
Ouais, ouais, c'est vraiment comme dans taxi. Tu peux reprendre la même truc que dans Taxi 3.
Ouais, c'est ça. Moi j'ai honte de dire que je l'ai vu, hein, taxi. Konnichiwa.
Konnichiwa.
Bref. Et enfin, il est là tous les vendredis pour parler du monde merveilleux de la musique et de ses coulisses qui piquent souvent nez. C'est Davy Bailly Bazin.
Pas si merveilleux cette semaine encore, mais bonjour à toutes et à tous.
Oui, spoiler alerte, tu vas parler plateforme musicale.
On va parler beaucoup d'argent, comme d'habitude, malheureusement. Beaucoup pour certains et pas beaucoup pour d'autres.
Et là, je m'aperçois avec honte que je n'ai pas lancé vos titres, mais c'est pas grave.
Parce que tu les aimes pas.
Je les déteste. Je vais pouvoir saluer la présence aujourd'hui. Ils font pas le pont. C'est Valère Veilla pour l'audio. Oui, Made in Switzerland, même Made in Jura même. Et puis monsieur Antonin Barre pour la vidéo.
Aussi.
Magnifique duo, on avait toutes les chances à l'Eurovision avec ça. Ouais. Ça, c'est pas moi, c'est personne. Voilà, on va quand même lancer les titres. Donc Laurent, tu nous as rapporté, je fais habillage. Attends, intro, voilà, parce que tout est
c'est préparé. De...
Exactement. Tu nous as rapporté ça.
Oh, il y a des robots.
Oui, il y a des robots, exactement. C'est le groupe de musique américain OK Go, qui est d'ailleurs reconnu pour ses vidéoclips à la créativité débridée, qui fusionne d'art, de technologie et de performance physique. Leur dernier projet, le clip Love, repousse encore les limites, cette fois grâce à 25 bras robotiques qui sont collaboratifs et surtout parfaitement synchronisés avec des jeux de miroirs. Alors le résultat, c'est une chorégraphie hypnotique entre humains, robots et reflets, tournée en un seul plan séquence à couper le souffle dans la gare de Budapest.
Tu fais bien de parler de robots et de bras articulés et de miroirs parce que l'émission, effectivement, est à suivre en vidéo sur couleur3.ch ou plus tard ce soir pour la version VOD. Et cette semaine, ça vaut d'autant plus la peine que Laurent, tu nous as rapporté des images exclusives from Japan. On va passer sur Davy maintenant. Davy, tu nous as rapporté des bébés, c'est toi.
Voilà.
Je t'ai laissé l'intro.
C'est sympa. Écoutez cette petite voix. Ça sent pas l'été, ça?
Ah oui,
trop.
Ah moi, ça va tourner.
Tube de l'été.
Ça va tourner tout l'été dans ma playlist. Il s'appelle, le morceau s'appelle Cinematic Love. Uh-huh. Et c'est le nouveau single d'un DJ américain qui s'appelle Soul Legend, DJ et producteur qui vit à San Diego, en Californie, et qui puise son inspiration dans le disco, le funk, la soul. Il a même commencé en 2019 en remixant du jazz. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt vers de la house qu'il nous emmène, de la house qu'il veut, je cite, dansante aussi bien dans son salon qu'en club ou en défilé de mode. Et voilà. Petit titre de l'été, Cinematic Love.
Alors moi, je suis pas sur Spotify, je suis sur YouTube Music. Comme ça, j'ai pas eu à faire un nouveau compte et j'ai mis un petit pouce en l'air, ce qui fait qu'il est dans mes morceaux j'aime.
Yes.
Moi, je vous ai rapporté Mansionnaire. Vous connaissez ?
Pas du tout.
C'est évidemment, hein, vous savez que j'adore le hip-hop et la musique classique.
Voilà.
Donc c'est un trio australien originaire de Sydney. Ils ont été créés en 2014. Ils ont assuré les premières parties de groupes comme Florence and the Machine, Alt G ou encore Churches. Ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient rien produit. Là, ils reviennent avec un nouveau single qui annonce un 3e album et une série de concerts où ils ne seront pas en première partie de quelqu'un. Ils vont tourner partout cet été aux États-Unis. On laisse partir le beat parce qu'une fois que le beat est lancé, on a tout compris.
Substance vendue séparément.
Ah oui. Ah, ça réveille ça.
Moi, j'aime bien.
Ah ouais,
j'aime bien. Mais pour respect pour les auditrices, par respect pour les auditrices et les auditeurs qui nous suivent en voiture, vu qu'il est encore un peu tôt pour écouter de l'électro, je veux dire, on va écouter le morceau de Nolwenn. Tu nous as rapporté. Tu veux nous parler pendant que je lance l'intro ou
Ouais, bah lance et puis je vous. Puis on papote.
Et on papote. D'accord.
Allez,
on écoute ton titre.
Ouais, vous reconnaissez peut-être déjà, hein, je vous ai ramené le nouveau single de Lola Young, One Thing, sorti la semaine dernière. Alors je sais, elle est déjà en playlist, mais j'ai écouté que ça cette semaine, donc va falloir faire avec. Hein. En deux mots, bah, elle parle de cul, elle le fait bien, c'est monstre catchy, et le clip sort tout droit de MTV du début des années 2000. T'sais, on croirait voir un clip à l'ancienne de Pink ou de Lily Allen.
Clairement.
Et ça fait du bien, j'adore cette meuf, c'est cadeau.
C'est le retour des clips de la télé, je suis moins sûr. Allez, on écoute Lola Young.
I only want one thing. I don't
tu es super corpo, Nolwenn, parce qu'effectivement, tu nous as rapporté ce titre qui vient de rentrer dans la playlist de Couleur 3.
Et ben voilà.
Donc les astres s'alignent. Bon titre, non?
Excellent.
Super.
Je disais tout à l'heure, hors antenne, quand on parlait de ça, je disais j'espère que Lola Yang passera le cap des 27 ans.
Oui.
Ah ouais.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Les news de la semaine, c'est parti.
Ouais. Les débiles de la 3.
Oui.
Allez, on démarre par le gros bad buzz autour de la sortie prochaine de Mind's High, un jeu d'action en monde ouvert porté par Leslie Benzies. Alors ça, ce nom ne vous dit peut-être rien. Hein. Leslie Benzies, c'est un Écossais de 54 ans qui est très intimement lié au succès de la saga GTA. Ça, ça devrait vous parler. Il a été producteur chez Rockstar entre 2001 et 2013 de GTA 3 jusqu'à GTA 5. En 2015, il a quitté l'entreprise avec perte et fracas. 10 ans après, il est toujours en procès pour toucher une partie de ses droits d'auteur. Et en parallèle à tout ça, il a ouvert donc son propre studio, Build Rocket Boy. Et il s'apprête à sortir le 10 juin prochain son tout premier jeu, donc Mind's High, dont les images s'affichent derrière moi. C'est un GTA-like futuriste qui reprend la philosophie d'un GTA, à savoir un grand monde ouvert à parcourir en voiture et des séquences d'action à pied. Et depuis environ un mois, alors qu'il n'est toujours pas sorti, le jeu se fait malmener sur YouTube par une bande d'influenceurs qui s'amusent à décortiquer les quelques rares vidéos de présentation pour pointer les défauts. Alors c'est vrai qu'en l'état, c'est joli, mais ça révolutionne pas grand-chose. On a le sentiment d'être sur un jeu d'action standard qui n'a pas la touche et la densité d'un GTA, mais pas le même budget non plus, mais le web tape tellement fort que c'est à se demander pourquoi ce jeu plutôt qu'un autre. Évidemment, le report de GTA 6 à l'année prochaine a déplacé l'attention du public vers ce jeu, mais ça n'explique pas entièrement pourquoi il se fait démonter avant même sa sortie. Et cette semaine, eh bien, les studios Rocket Boy ont réagi à travers le co-PDG Marc Gerhard qui soupçonne la présence de forces extérieures qui financeraient certains influenceurs pour faire capoter la sortie de Mind's Eye.
Mais des forces extérieures de chez Rockstar Game.
Et sans les citer, on comprend très vite qu'ils pointent du doigt les studios Rockstar. Ils parlent aussi d'une armée, une armée de bots. Bah, ça fait 10 ans qu'ils sont en procès, donc ils aimeraient bien le voir tomber. Des bots qui viendraient systématiquement poser les mêmes commentaires sur toutes les vidéos autour du jeu. On saura le 10 juin prochain si Mind's Eye était un pétard mouillé. Visiblement, les auteurs annoncent qu'on est sur un jeu principalement narratif et évolutif qui va se remplir au fur et à mesure. Il y a un calendrier qui va s'étendre jusqu'en 2026. Pour l'instant, les seuls qui font du bon argent avec tout ça, bah, ce sont les influenceurs de YouTube en dénigrant la tambouille des autres avant même d'y avoir touché. C'est ça qui est beau.
En attendant que tu nous le testes, il y a au moins le mérite de sortir. Contrairement à GTA, parce qu'à un moment je veux bien, ok, Rockstar, ouais, ça va être super GTA 6, mais il est toujours pas là. En attendant, celui-ci il sort dans 10 jours.
Exactement, on se revoit le 10 juin donc pour compter les points. Deuxième news. Vous avez peut-être vu passer, mais cette semaine, on apprend que la CIA aurait utilisé pendant plusieurs années des sites internet bidons pour communiquer avec ses agents un peu partout sur Terre, notamment un site de fans de Star Wars, un portail dédié au sport extrême et même un forum consacré à la musique brésilienne.
Je suis la CIA, je dois vous l'avouer maintenant.
Alors, l'agence Reuters qui a mené l'enquête parle de plusieurs centaines de sites concernés. Une fois connectés, les agents n'avaient plus qu'à rajouter un mot de passe dans la barre de recherche pour accéder à un canal sécurisé. Quoique, pas vraiment, ce petit système est rapidement apparu sur les radars des services de renseignement chinois et iraniens. Et tout ça a mené à l'exécution de plusieurs agents infiltrés entre 2011 et 2012.
Oh, wow.
Le gros problème, c'est que tous ces sites étaient facilement traçables dès lors où ils partageaient les mêmes plages d'adresses IP. Mmh. Une fois qu'un site était dans le viseur, il suffisait de tester les derniers numéros de l'adresse jusqu'à tomber sur les pages en question. Tout ça est arrivé il y a une dizaine d'années. Depuis, la CIA a augmenté le niveau de sécurité. Enfin, si on oublie la gouvernance de M. Trump.
Voilà.
Aujourd'hui, ils doivent passer sur des sites dédié à Star Trek. Je déconne. On continue. On a tous déjà entendu parler de la société Oracle, un géant de l'informatique, le numéro 2 mondial du logiciel. C'est eux qui développent le langage Java, les systèmes de base de données MySQL qui sont utilisés massivement par des sites et des applications. Cette semaine, donc, le géant Oracle, maintenant qu'on sait qui c'est, ils annoncent investir 40 milliards de dollars pour construire au Texas un des plus grands centres de données au monde. 8 bâtiments répartis sur 354 hectares, soit l'équivalent de 500 terrains de football.
Wow.
Pour faire chauffer les IA, ils viennent de commander plus de 400 000 puces au géant et au fabricant Nvidia. Et dans les estimations, il faudra environ 1,2 gigawatt de puissance pour faire tourner ça. Avec 1,2 gigawatt, on peut alimenter plus d'un million de foyers européens. Ça représente la production d'une centrale nucléaire rien que pour ce projet. En version verte, j'ai compté, il faudrait entre 400 à 600 éoliennes. Mais ça, c'est rien comparé à Abu Dhabi qui vient de signer un partenariat pour un campus de 26 km². Donc pour le coup, on passe de 500 terrains de foot à 3600 terrains de foot pour accueillir, non pas 400 000 puces Nvidia, mais 2 millions de puces Nvidia. Côté consommation, production, on serait à 5 gigawatts, soit 4 fois le Texas, soit 4 centrales nucléaires.
Et combien de milliers de litres d'eau pour refroidir tout ça?
Alors ça, on va en reparler aussi.
Surtout à Abu Dhabi.
Et que ça soit au Texas ou encore à Abu Dhabi, t'as raison, derrière ces deux projets, on trouve Sam Altman et sa société OpenAI. Il essaie gentiment de se désolidariser de Microsoft et de mettre ses œufs dans d'autres paniers. On continue. Après 7 épisodes de la saison 2 de The Last of Us qui s'est terminé le week-end dernier, quand même avec une baisse d'audience de 50%, chez HBO on reste quand même optimiste puisqu'en VOD la série cumule une moyenne de 37 millions de spectateurs par épisode, ce qui reste quand même super honorable. Et surtout ils sont bien conscients que la saison 2 incarne un petit peu le ventre mou et que tout ça va remonter évidemment avec la troisième saison. Et parallèlement à l'actualité d'HBO, le jeu vidéo se porte très très bien puisque pendant les 2 mois de la diffusion télé, la version remastered a trouvé 2 millions de nouveaux clients. Avec un pic.
Il y a encore des gens qui n'ont pas joué à Last of Us.
Avec un pic à plus de 30 000 joueurs le mois dernier pour la sortie de la version PC. Ouais. Franchement, moi je me le refais aussi. C'est hallucinant.
C'est un des meilleurs jeux vidéo qui existent. Hein,
et la série, enfin les meilleures scènes de la série sont celles du jeu en fait. Bref, voilà, on continue et on termine. Ce week-end, on va pas vous en parler, mais c'est la sortie de The Elden Ring Night Rain un peu partout sur console et PC. 3 ans après, le jeu aux centaines de récompenses revient donc dans une version orientée multijoueur et battle royale. Alors c'est toujours du dark fantasy, c'est toujours très dur. On peut se faire éclater cette fois-ci à plusieurs ou même se taper dessus parmi. C'est toujours issu de l'univers de l'auteur de Game of Thrones, l'américain George Martin. Il y a 15 jours, je vous parlais du film qui vient d'être signé avec les studios A24. On parlait d'Alex Garland derrière la caméra. Eh bien, c'est bon, c'est confirmé. C'est l'excellent réalisateur anglais des films Civil War et Warfare qui va donc filmer ce film. Il y a 15 jours, il a démenti l'information, mais visiblement, il devait être en tractation puisque c'est confirmé. Donc, c'est bel et bien lui qui va se charger de nous porter ça à l'écran. Et quand on sait qu'il a écrit aussi des scénarios de jeux vidéo, c'est plutôt rassurant. Voilà pour les news de la semaine. J'ai soif.
I'm Indiana Jones, you that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones for taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear I almost broke through last night. And there's only so many times I can simulation theory myself at a lunch. Pub quiz question 7, just a hunch. Cleopatra lived closer to the France 98 World Cup than the construction of the pyramids. You gotta wake up. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. And I've seen a pyramid. They built one in Stockport. A reincarnated insurance headquarters, now an Indian restaurant. And the possibilities are endless. If you can imagine it, it can exist. Imagine what the pharaohs could have done with a 4-day working week and a 3-finger Twix. Stockport Council abandoned their Valley of the Kings, but I'll never abandon you. God bless those big black squares we keep in the corner of the room. And remember, you can do anything. And if they can, then you can too. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivation speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need. You get one life living in the Valley of the Kings. Motivationally speaking, you get everything you need.
Je soupçonne la ligne de base d'avoir été empruntée au Disclosure, mais c'est pas grave, c'était Anthony Smuriek. Ouais, on l'a, je l'ai fait mieux. Je l'ai mieux fait en, alors en antenne.
C'est pas mal.
Anthony Smuriek. C'est bon, on pouvait pas chier. C'était The Great, j'arrive pas à me relire tellement je suis mauvais. The Great Pyramid, en accent anglais.
The Great Pyramid of Stockport.
Fais-le peut-être avec l'accent russe.
The Great Pyramid of Stockport.
C'est beaucoup mieux.
Tant mieux.
Tout de suite par les jeux vidéo. Pas trop parler, hein.
Superflu. Gaming.
On démarre notre sélection gaming en 1959 aux États-Unis pour rouler à coin dans les rues de Deliver at All Cost, un petit jeu indépendant qui s'est fait une jolie réputation depuis sa sortie. Pourtant, bah, il réinvente pas la poudre ni la roue, hein. Il reprend le concept de jeu en 3D isométrique, c'est-à-dire bah, qu'il est présenté depuis le dessus, la caméra qui vise le bas en perspective cavalière. Ici, on incarne Winston Green, un jeune chauffeur qui démarre sa carrière de livreur pour l'entreprise WeDeliver.
Il n'a pas eu son permis, visiblement.
Une société spécialisée dans le transport de tout et n'importe quoi, comme des caisses de feux d'artifice trop sensibles, des pastèques qui se baladent un peu trop au fond du camion, et des objets qui rendent la conduite de plus en plus acrobatique, comme une grappe de ballon baudruche qui donne l'impression de rouler en gravité zéro, comme un peu la maison du film là-haut. Visuellement parlant, c'est plutôt joli, hein, ouais, vous avez les images sous les yeux, les amis, on est bien dans les années 60, la musique c'est pareil, ça fait le boulot. Là où il apporte une dose de fun, ce jeu, bah, vous l'avez dit, c'est qu'on peut tout détruire dans le décor en traversant les maisons jusqu'à les voir s'effondrer. Alors évidemment, on finit par.
C'est un peu bête, hein, quand même.
C'est un peu bête, mais c'est le principe des jeux vidéo.
C'est rigolo.
Évidemment, on finit par se mettre la ville et la police sur le dos. L'objectif, bon, je comprends pas, c'est de livrer le plus rapidement ou le moins pire possible en se faisant un minimum d'ennemis. Donc Deliver at All Cost est disponible autour des 30 francs sur PlayStation 5, Xbox et PC. Ça va pas chercher très loin, ouais, mais ça fait le boulot.
C'est sympa.
Et c'est dommage, je suis allé vérifier ce matin, il était gratuit sur le Epic Game Store.
Ah oui?
Oui, tu pouvais l'avoir gratuitement sur PC. Mais plus ce matin, ils ont changé, ils en ont mis un autre. Mais le jeu existe quand même, et il est quand même sympa. Deuxième jeu.
Moi, je suis client de ce truc, ça.
Ouais, c'est
quand il n'y a pas besoin de réfléchir comme ça,
ça vide bien la tête. Peut-être,
c'est des trucs.
Peut-être ouais. Moins avec celui-ci maintenant. Merci pour la musique,
Valère.
Plus sérieux et beaucoup plus chronophage, on embarque aux commandes d'un camion du jeu Roadcraft, un immense bac à sable qui propose de restaurer des sites dévastés par des catastrophes naturelles. C'est un peu d'actualité par chez nous en ce moment. Alors, pour ça, le jeu propose de piloter plusieurs machines de chantier, une pelleteuse pour évacuer des débris, des grues et différents bulldozers pour aplatir la route, verser du béton et se créer des voies d'accès. En tout, le jeu compte plus d'une quarantaine de véhicules. Bon, il y a des déclinaisons, donc il y en a qui se répètent. Il y a 8 environnements différents pour des heures de planification et des moments bien galères à patiner dans la boue, à déblayer des arbres ou à tenter de maîtriser les commandes d'une grue pour charger des blocs de béton ou des poutres une à une dans le camion. C'est hyper balèze.
Il est très beau, hein.
Il y a quasiment rien d'automatique, exactement. On doit tout faire tout seul. Heureusement, on peut se connecter avec 3 autres copains pour galérer à plusieurs et à se partager les tâches. Roadcraft, c'est un jeu proposé par les équipes derrière Mudrunner et SnowRunner, bah des jeux de pilotage qui intègrent en temps normal une gestion de la physique particulièrement poussée. Ici, c'est beaucoup moins exigeant, hein, mais ça reste quand même un jeu qui se joue lentement, en réfléchissant bien à tous ses coups de volant. On va manipuler du bois, du sable et du bitume, et on peut même construire des ponts pour créer des nouveaux itinéraires. Pour le reste, bah, c'est super joli, tu l'as dit, ça affiche super loin, c'est très agréable à jouer, et c'est aussi disponible sur PS5, Xbox et PC autour d'une quarantaine de francs. Par contre, les fans de Mudrunner trouve que c'est un petit peu trop casualisé.
Ah ouais.
Et les casual gamers trouvent que c'est un peu trop mode runner.
Ouais. Ouais.
Fais ton choix, camarade. Et enfin, dernier jeu. Le petit plus superflu cette semaine, c'est Out of Sight, un jeu à la deuxième personne. Laurent, j'attends que tu réagisses. Alors, c'est très très rare la deuxième personne. D'habitude, on est soit à la première personne à la place des yeux du joueur, ou autrement, on est aussi à la troisième personne.
Même deuxième personne, même moi, je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut
dire.
Qui nous
montre le personnage de plein pied. En fait, Out of Sight, c'est un jeu horrifique où on incarne Sophie, une jeune fille non-voyante enfermée dans une étrange maison. Et la particularité, c'est qu'elle va retrouver la vue à travers les yeux de son petit ours Teddy.
Ah,
c'est okay. Ça le côté d'accord. Deuxième personne. Ce qui fait qu'une fois qu'on pose l'ourson sur une chaise ou un meuble, eh bien, on peut déplacer son personnage à travers les yeux de la peluche. Pas mal trouvé, je pense.
Oh, c'est malin.
Et quand on le prend dans ses mains, bah en fait, elle plaque le petit ours contre son ventre, ce qui nous permet de voir là où elle va, là où on passe à la première personne. Donc, grâce à ce côté deuxième personne, en fait, le jeu joue sur les deux plans. Tantôt, on est à la première personne, tantôt, on est à la troisième excellent. Personne. Et évidemment, pour ça, bah, on va devoir poser le petit Teddy pour se libérer les mains. Donc, le jeu va nous faire déplacer des caisses, ouvrir des placards. On est dans un jeu d'exploration qui fait appel aussi à des petites séquences de réflexion. Mais surtout, il va falloir éviter de faire du bruit pour pas réveiller les soupçons de nos ravisseurs.
C'est un running game aussi.
Exactement. Ouais. Alors, il est pas mal. Il y a une assez bonne ambiance. Il est très original. Il est dispo partout, hein, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Ce qui est bien, c'est qu'il est disponible aussi en VR. Donc quand tu poses ta caméra, c'est comme si toi tu te posais sur une chaise. Il coûte une vingtaine de francs et il prend que 2 heures à terminer.
C'est
une
chouette,
très très belle expérience.
Vraiment sympa.
C'est original et comme personne d'autre n'en a parlé, ça s'appelle Out of Sight. Yurge, Jesus with glasses. Oh, il pète la classe, quoi. We got Jesus with the glasses over here. Watch his faith in humanity disappear. And he's walking down the city of lies. He puts his face in his hands and he cracks his smile. He got him talking to the lunatics over here. Can I be part of your circus for a year? And he's showing off his magic trick. He fits right in and he dances and screams. I found everything I ever wanted. We'll
Jesus with the glasses over here. Watch your faith in humanity disappear. And it's touring around with the low lives. He sees the people getting high on their own pride. We got him laughing like a maniac over here. And this is all I envisioned for all my years. And it's pushing through the madness. He gets shot in the arm and he forgets.
Rock'n'roll is not dead.
Clairement, ils bougent encore l'orteil. Hein. Jesus with glasses, c'était les Suisses de Urges, au pluriel.
De quoi ?
Oui, U-R-G-E-S. Je te laisse faire ta chronique et j'explique ce que c'est.
Ça marche.
On y va.
Qu'est-ce qu'on fait ? Ça vous dit un peu d'actu web ?
Yeah !
Alors attention, flash info, je sais c'est pas l'heure, mais j'en ai plus rien à foutre.
RTS couleur 3.
Nolwenn Gorgon.
1, 2, 3.
Coup de sac dans le milieu très compétitif des réseaux sociaux. La plateforme OnlyFans est mise en vente pour quelques 8 milliards de dollars. Ce réseau social fructueux mais controversé pourrait peiner à trouver preneur. Bien que certains l'utilisent pour soutenir leurs sportifs préférés ou pour admirer les orteils de Lily Allen, ils sont surtout connus pour ses contenus à caractère pornographique. Grosse journée pour Elon Musk. Ce mercredi, le milliardaire a officiellement quitté le gouvernement Trump et le Doge, sa commission créée sur mesure portant le nom de son même préféré. Dans la foulée, il a pour la première fois émis des critiques envers le président américain, se disant déçu. Une chafouinade qui pourrait également être liée à l'échec le jour même du 9e vol d'essai de sa fusée Starship. Conçue avec la modeste ambition de coloniser Mars, cette fusée de la taille d'un immeuble de 40 étages a à nouveau explosé après quelques minutes dans l'espace. Le gouvernement français a fait, comme qui dirait, une sacrée boulette. Ouais, bon, vas-y, c'est chiant. On fait une chronique normale ? Une chronique normale, c'est parti. Grosse boulette du gouvernement français, donc, hein, en voulant surfer sur un trend TikTok. Alors, pour le contexte, en ce moment, la plateforme est inondée de vidéos dites historiques, créées par intelligence artificielle. Yeah. Je vous ai apporté quelques exemples. Ce sont des vidéos POV, pour Point of View, qui nous plongent dans le quotidien d'une personne à différentes époques historiques. On découvre ainsi que ce que ça fait de se réveiller dans la peau d'un soldat des tranchées, d'un enfant vivant à la préhistoire ou encore d'un Anglais durant la peste noire. Grosse ambiance. Et les gens en raffolent, hein. Ça fait des millions de vues, même si les historiens sont formels, il n'y a rien d'historique là-dedans, c'est bourré d'anachronismes et de stéréotypes, il y a de grosses erreurs partout, et entre nous, les animations sont même pas terribles. Mais le gouvernement français s'est dit que ce serait une hyper bonne idée de reprendre le format pour célébrer la journée nationale de la résistance, le 27 mai dernier. Il a donc posté une vidéo sur Instagram et TikTok, générée par intelligence artificielle, censée reconstituer le parcours d'une résistante lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'à un moment de la vidéo, bah, on voit ça.
Voilà, la scène typique de la libération, hein, avec la dite résistante brandissant un drapeau français dans une foule en délire et juste derrière elle, un soldat de la Wehrmacht, tout sourire. Aucun doute possible, hein, il a tout l'uniforme, dont le casque typique de l'armée allemande.
Ah oui, c'est... Non, alors,
peut-être qu'il n'avait pas compris les enjeux.
Peut-être, ouais.
Non, on reconnaît, là, c'est du Hugo Boss tout craché.
C'est,
là,
c'est par où que je dois aller.
Ouais, c'est bel et bien une grosse boulette, hein, que les internautes n'ont évidemment pas loupé. La publication a d'ailleurs rapidement été supprimée et le gouvernement n'a pour l'instant pas fait de mea culpa.
Ouais, il ferait mieux de pas le faire d'ailleurs.
Ouais. Mais ils veulent pas arrêter de faire n'importe quoi sur les réseaux, les gouvernements, là. On dirait des boomers sur Facebook, c'est l'enfer, tout est cringe. Alors en Suisse, pour l'instant, on est épargné, hein. Le compte officiel du Conseil fédéral n'a pas grand chose à se reprocher pour l'instant. Mais je pense que c'est juste parce que c'est la Suisse. Faut leur laisser le temps. Vous allez voir, dans 2-3 ans, ils vont nous poster un Harlem Shake, on va rien comprendre. Mais le summum, ça reste les États-Unis, hein, et surtout le compte officiel de la Maison Blanche, qui depuis l'élection de Trump, évidemment, est en roue libre totale. Y a à boire et à manger, hein, sur ce compte. Des cartes de Saint-Valentin avec des poèmes sur la déportation, des vidéos ASMR de scènes d'arrestation d'immigrés illégaux, des mèmes sur les démocrates ou encore des images de Trump détournées grâce à l'intelligence artificielle en pape ou en Jedi bodybuildé. D'ailleurs, je crois qu'il a pas bien compris le film. Parce que bah, sur cette image de Trump, on voit qu'il tient un sabre laser rouge, couleur des méchants dans Star Wars normalement. Alors on pourrait penser que c'est une simple erreur d'inattention, sauf que, toujours sur le compte de la Maison Blanche, on trouve un extrait détourné de Star Wars où on voit Dark Vador se battre contre les différents ennemis de Donald Trump, soit les immigrés, les dealers ou encore les fake news. Alors au cas où, très peu probable où il nous écouterait, Dark Vador c'est le méchant Donald. Alors bon, pour pas qu'on reste là-dessus, hein, avant de quitter cette chronique, je voulais finir avec un prank qui fait fureur sur TikTok. Et pour une fois, c'est juste bon enfant, ce qui est assez rare pour être relevé. Le principe, c'est que des hommes appellent leurs potes juste pour leur dire bonne nuit. Et ils sont tellement pas habitués à ça que ça les fait hurler de rire. Si la plupart des vidéos font bien marrer, certaines ne se passent pas comme prévu, hein, avec par exemple un mec au bout du fil qui est hyper touché par l'attention, ou alors ça tombe pile au moment où il avait besoin de parler à quelqu'un. Donc conclusion, messieurs, appelez vos potes pour leur dire bonne nuit. Au mieux, ça leur fera plaisir. Au pire, ça vous fera un bon fou rire comme celui-là.
Hey, brother.
Yo, what's up, my man?
What's happening?
I'm just chilling. What are you doing?
I just watched a little movie.
Yeah, what are you watching?
All American.
Is it good?
Yeah, that's all right.
All right. Hey, I was just calling to wish you a good night.
Voilà comment utiliser la batterie, sa batterie avec bon goût.
Oui, c'est ça. Ou pour bien rigoler sur les réseaux, je vous conseille de vous faire toute une compile. C'est très feel good.
Les good night call.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup. Avec J'espère plaisir. Que ça ne sera pas tout ce qu'on va retenir.
La troupe.
Somber, undressed. Il se marre encore, les gars. On aura du mal à dormir après. Et après ça, on a rendez-vous avec monsieur Davy Bailly-Bazin.
Oui.
Au tableau.
Oui.
But
Somber avec le titre Undressed. Oui, rhabillez-vous, messieurs, merci.
Oui.
Voilà. Lui est habillé, il est classe, il est stylé.
Je vais peut-être même rester habillé, je pense. Hein, ce sera mieux pour tout le monde.
C'est dommage. Allez, Davy Baby. Oh bah c'est dommage alors.
Super. Je t'assure que non.
Musique, c'est parti.
Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Sparks sont de retour.
C'est qui les Sparks?
Ils s'appellent Ron et Russell Mael. Ils ont respectivement 80 et 77 ans et ils ont marqué l'histoire de la musique. Même si votre première question c'est qui les Sparks, ils ont quand même marqué l'histoire de la musique. Parce que allez savoir pourquoi, l'histoire de la musique ne leur rend jamais véritablement hommage. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils continuent d'en faire de la musique. Les Sparks viennent de sortir un nouvel album. Il s'appelle Mad et jamais un album n'avait aussi bien porté son nom. Je vais vous expliquer pourquoi.
On écoute. Je suis plutôt North Face.
Ou Eastpak peut-être. Il n'y a que les Sparks pour faire une chanson complète sur une fille qui porte un sac à dos Jeanne Sport. Voilà.
Parce que oui, pas ce qu'il y a dedans.
Les Sparks sont complètement fous. Ils ont toujours été fous. Et c'est avec cette folie qu'ils ont marqué de leur empreinte le rock et la pop de ces 60 dernières années. Une folie qui serait un mélange visuel et musical, si vous voulez, de Salvador Dali, les Talking Heads, les frères Cohen et Michel Gondry.
Oh oui.
C'est un peu tout ça, les Sparks. Ils
Joli
sont
cocktail.
Tellement loufoques et originaux, mais à la fois excellents mélodistes et toujours actuels dans leur musique, qu'on pourrait croire qu'ils sont anglais. Et pourtant, pas du tout. Ron Mael et son frère Russell sont nés à Los Angeles, en Californie, d'un père graphiste et d'une mère bibliothécaire. Famille juive américaine de la classe moyenne à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de grande folie à ce moment-là dans leur vie. Ron, l'aîné, est même un élève modèle à l'école, très bon en classe et membre de l'équipe de lutte du collège. Raison pour laquelle, quand ils montent leur premier groupe à la vingtaine, ils lui donnent le nom d'une prise de lutte, Half Nelson.
C'est vrai que ça peut être très anglais, hein,
ouais.
dans le style.
Mais ça sonne aussi très flower power et rock psychédélique américain, je trouve. On est en 1968. Half Nelson s'inspire de tout ce qui se fait à cette époque et va quand même y ajouter une petite pointe de folie, parce que voilà, c'est les deux têtes pensantes du groupe, hein, qui ajoutent ce petit grain de folie, Ron et Russell Mael. Trois ans plus tard sort leur premier album, produit par Todd Rundgren, qui est quand même un producteur et chanteur qui a bossé avec Bob Dylan et Patti Smith à l'époque, avec plein d'autres grands noms du rock par la suite. Mais ce qui chiffonne un peu Todd Rundgren, c'est pas la musique, c'est le nom du groupe. Je trouve que Half Nelson sonne pas terrible. Il leur demande donc de changer de nom.
Et Ron
et Russell, comme ils sont fans des Marx Brothers et qu'ils se définissent eux aussi quelque part comme un duo comique plutôt que musicien, alors ils optent pour un nom similaire, un peu comme un hommage, les Sparks Brothers, qui finira par être Sparks tout court en 1972. D'ailleurs, tout le monde dit les Sparks, mais si on voulait dire le nom correctement, bah on dirait Sparks. Punchlous. Mais c'est vraiment qu'un détail. Ce qui compte pour les frères Mael, c'est de composer des ovnis musicaux. Ron se charge des mélodies au clavier, dans un schéma qui s'éloigne du traditionnel couplet-refrain, tandis que Russell laisse s'exprimer toute son étendue vocale de contre-ténor, et ça donne ça.
C'est excellent.
C'est méga cool.
1974, un titre qui sonne comme une réplique de western, This Town Ain't Big Enough For Both Of Us, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux, et un single qui va faire l'effet d'un coup de revolver. C'est un carton, cette chanson, aux États-Unis, mais aussi en Europe et surtout au Royaume-Uni, où le titre se classe à la seconde place des charts. Je pense que le côté théâtral, les paroles surréalistes aussi, ça parle aux Anglaises et aux Anglais à l'époque, raison pour laquelle les frères Mael quittent les États-Unis et partent s'installer à Londres. Ils se séparent de leurs musiciens américains pour aller recruter des Britanniques sur place, et ils sortent l'album Kimono My House, qui va faire d'eux des icônes du glam rock grâce à ce titre hein, quand même aussi. Et ils vont inspirer pas mal de groupes à travers le monde, notamment un à qui ils avaient confié leur première partie quelques années auparavant quand ils étaient venus jouer à Londres en 1973. Et ce petit groupe anglais qui débutait, il s'appelait Queen.
Queen,
quand j'entends ce morceau, je me suis dit, mais ça, l'inspiration, c'est l'inspiration de Bohemian Rhapsody.
Complètement. Et les Sparks vont donc continuer sur cette lancée comme ça jusqu'en 1979, où là, ils vont faire la rencontre de Giorgio Moroder. Ah. Et Giorgio Moroder, à cette époque, on le rappelle, hein, c'est un pionnier de la musique électronique. Le producteur italien s'est installé à Munich, où il a signé les plus grands hits de Donna Summer, Hot Stuff, Bad Girls, Love to Love You Baby et I Feel Love. Tandis qu'il vient de recevoir un Oscar pour sa BO de Midnight Express, c'est donc Moroder qui fait découvrir à Ron Mael tout ce qu'on peut faire avec des synthétiseurs, ce qui va profondément changer le son des Sparks et qui va nous donner ce petit ovni.
La moustache, je suis pas sûr.
Très mal vieilli. Hein.
On en a des comme ça encore en Suisse. Hein.
Ouais, ouais. Ils portent des chemises armaillies.
C'est fou ce qu'il faut pas dire pour donner envie aux gens de venir sur couleur3.ch pour voir la jolie moustache.
Mais la voix, elle est cool.
Ah oui. Ouais. Je vous expliquerai pourquoi la moustache.
D'accord.
Ouais, ouais, y a
la
une
mèche
explication.
Aussi.
Oui, mais tout.
D'accord.
Tout. Là. Le body language de Ron Mael, il s'explique et j'ai l'explication. Parce que la moustache et la posture et les fringues, c'est aussi ça qui fait les Sparks, c'est qu'en fait, ils ne se prennent jamais au sérieux. Mmh. La seule chose qu'ils prennent au sérieux, c'est leur façon de faire de la musique, mais une fois qu'ils la jouent, honnêtement, ils sont très drôles. Ils n'ont pas peur de tenter des trucs, c'est ce qui fait qu'ils restent toujours très actuels dans leur carrière, malgré les époques. Preuve donc avec cet album, Number One in Heaven, produit par Giorgio Moroder, qui sera là aussi un carton. Mais c'est l'album suivant qui va surtout connaître le succès, notamment chez nous en Suisse en 1980, avec ce titre When I'm With You, extrait de l'album Terminal Jive, qu'on entend sur toutes les radios à l'époque, même si des radios n'aiment pas beaucoup. Un single qui sera certifié disque d'or, plus pop, plus classique certes, mais toujours aussi Sparks.
On lui a toujours pas dit pour la moustache, hein, entre les deux chansons.
Il va changer après. Ce n'est pas le générique de Goldorak, c'est When I'm With You, extrait de l'album Terminal Jive des Sparks, produit par Giorgio Moroder en 1980. Énorme tube des Sparks partout en Europe, notamment en France et en Suisse, qui vaudra d'ailleurs aux Sparks de collaborer par la suite avec des groupes français comme les Rita Mitsouko, ce qui n'est pas surprenant non plus. Il faut dire que les frères Ron et Russell Mael, à cette époque, ont déjà plus de 10 ans de carrière derrière eux, donc ils se mettent aussi à produire d'autres artistes. Des artistes prestigieux et puis d'autres qui ne sont pas restés dans l'histoire, mais voilà, là le titre est sympa, je voulais vous le faire écouter, par contre je vous préviens quand même, ça pique un peu les yeux.
David, t'es où?
Je ne peux que vous conseiller de venir voir les images sur couleur3.ch pour savourer toutes ces paillettes surmontées d'une coiffure de bobtail avec un réalisateur qui vient de découvrir qu'on peut faire des trucs avec un fond vert. C'est génial.
C'est une bonne idée.
C'est
il
ça
a eu
aussi,
là.
Les années 80. C'est Noël avec Dancing in Dangerous. Voilà. Vive les années 80. Des années qui seront d'ailleurs un retour au rock pour les Sparks, tandis qu'ils continuent de produire des artistes plus électroniques. Les années 80 qui seront marquées aussi par une pause de 6 ans pour le groupe, avant de revenir en 1994 avec encore une fois un son radicalement différent.
C'est hyper bien aussi ça. Ouais.
Alors c'est un peu plus Pet Shop Boys dans le style, hein, mais je vous rappelle, on est en 1994. Si on remet dans le contexte, c'est pas si mal, hein, parce qu'en face c'était Ace of Base et Two Unlimited, hein, quand même.
Bah quoi.
Moi je sais pas, il y a toujours des mélodies qui me parlent dans les Sparks, je sais pas, voilà, c'est comme ça.
Ça me donne pas envie de quitter la table en tout cas.
Non, voilà. Alors c'est plus classique, c'est moins barré. Le vrai retour des chansons bien barrées des Sparks, pour l'avoir, il faudra attendre le début des années 2000. Avec l'album Lil Beethoven en 2002. Nouvelle révolution sonore pour les Sparks. Début de toute une série d'expérimentations sonores et visuelles et de projets un peu fous, comme celui-là avec la répétition du mot home.
Le clip, on dirait moi quand je m'ennuie sur Insta avec les filtres, tu sais.
Ça, c'est quand tu dis ?
Ça, ça date de 2002. Ils ont expérimenté des clips tournés à l'iPhone bien avant que ça devienne une tendance. En 2008, ils sortent leur 21e album. Donc pour marquer le coup, ils donnent 20 concerts les 20 jours qui précèdent la sortie de l'album à Londres, où ils rejouent chaque soir un album dans son intégralité, au plus près possible de l'original, avec une formation rock et un orchestre classique. Et cerise sur le pompon, Jimmy Somerville en guest star. Ils se lancent également dans des projets de comédie musicale. Ils en font plusieurs et c'est notamment eux qu'on doit la bande originale du film Annette de Léos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver, récompensé à Cannes et au César, nominé aux Golden Globes, notamment pour celui de la meilleure musique. So, may we start? Le film a reçu de très bonnes critiques. Je sais pas s'il a vraiment bien marché en salle, je suis pas sûr. Mais rien que pour sa BO, ça vaut quand même le coup parce qu'elle est exceptionnelle, je trouve. So may we start.
So may we start. Là aussi, il y a du Queen dans l'air. Hein.
Ah, complètement, ouais. It's time to
start. Et merci de nous avoir apporté toutes ces images, David. Même si on fait de la radio.
Ouais. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them. On en laisse un petit bout quand même.
Ouais, volontiers, il est bien le morceau.
Ouais. Vous n'y voyez pas d'objection ?
Pas du tout.
Nullement. Puis il y a Adam Driver et Marion Cotillard
voilà
dedans.
Qui arrive après, ouais. Voilà, Sparks, c'est donc tout ça. C'est aussi une collab avec Franz Ferdinand sous le nom de FFS en 2015, qui était génialissime. Sparks, c'est une source d'inspiration pour de nombreux groupes, de Depeche Mode à Face No More en passant par Morrissey, Franz Ferdinand et Justice. Sparks, c'est un pan de l'histoire de la musique, même s'ils n'ont toujours pas leur nom gravé au Rock and Roll Hall of Fame, et ça les fait bien marrer. Aujourd'hui, c'est leur blague entre eux. Sparks, c'est donc un nouvel album, le 28e, qui s'appelle Mad, titre qui résume à lui seul toute la carrière des frères Maël et qui vient de sortir, même si je l'espère, cette carrière durera encore bien longtemps, même s'il dure déjà depuis près de 60 ans quand même. Et si vous vous demandez pourquoi Ron Russell est toujours droit comme un i avec une moustache un peu qui ressemble au H, eh bien impassible derrière ses claviers comme ça, ça vient de leur premier passage à l'émission Top of the Pop en 1974. Ça les faisait chier de faire du playback, alors Ron est resté immobile derrière son clavier à fixer la caméra et c'est devenu sa marque de fabrique.
Donc c'est des punks.
Exactement.
On écoute un bout de ça.
Allez, on écoute un petit bout.
Il apprend pas.
C'est un extrait du nouvel album. Her greatest talent, she could keep it all in. Whatever bothered her, I had no idea. Or how big of a deal, or her lengths to conceal just how bad.
friends. We'd have some drinks and I would help her pretend. It all was going great, no problem at all. She's the belle of the ball and she does have it all, have it all. She told me, but it didn't work out. Wish I had helped her out, but I didn't know how. Even now, drowned in a sea of tears. Almost saved her, I was so very near. Drowned in a sea of tears. Though I tried, I couldn't. So frantic as we biked around Spain. Were we romantic or just out for good times? Two of a kind. Now I can see I was blind.
Sea of Tears, c'est le nouvel album de Sparks. Il s'appelle Mad. Ça, c'est un extrait et c'est très bon.
Merci beaucoup pour cet excellent sujet, Davy. À retrouver sur Superflu épisode 112 en VOD ce soir. Viens les voir parce que les images sont quand même incroyables. Et Laurent, on a encore le temps pour de la robotique.
Couleur 3.
Et on va en avoir des images là aussi.
Ça enchaîne cette émission.
Superflu, high tech.
Et on commence avec la start-up britannique Open Bionics qui vient de présenter sa dernière création, la prothèse Hero Pro, une main bionique détachable et contrôlable à distance.
Alors, tu nous en as rapporté beaucoup, mais celle-ci, c'est la plus aboutie.
Faut vraiment imaginer une main qui, même séparée de son bras, continue de bouger, de saisir des objets, même de ramper sur une table, un petit peu comme dans
on
la famille
Adams.
Exactement, mais surtout, ce qui est fou, c'est que le tout reste sous contrôle de son utilisateur. Cette prouesse, elle est rendue possible par des électrodes sans fil, appelées MyoPods, qui détectent les signaux musculaires de l'utilisateur et les transmettent sans fil à la main, qu'elle soit attachée ou non.
Rentre chez toi, Elon Musk.
La Hero Pro ne se contente pas de cette fonctionnalité, elle offre également une rotation du poignet à 360 degrés, une vitesse de mouvement doublée par rapport au modèle précédent et une capacité de levage jusqu'à 26 kg. Elle est résistante à l'eau, ce qui permet une utilisation sans souci dans diverses situations. Alors, au-delà de ses performances techniques, la Hero Pro se distingue aussi par sa personnalisation. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 50 designs de coques interchangeables. Je trouve génial aussi de penser aux utilisateurs. Ouais. De pas leur mettre tout le temps dans les pattes un truc un peu chelou.
C'est un peu la philosophie cyberpunk quoi.
Oui, c'est exactement ça. Alors l'aéropop d'Open Bionics représente une avancée majeure dans le domaine des prothèses bioniques. C'est une innovation qui transforme véritablement le quotidien des personnes amputées en leur offrant une autonomie accrue et surtout un tool, ce que nous on n'a pas, et ça les extend par rapport à
finalement
nous,
voilà, ils récupèrent une main et elle est encore meilleure que la
nôtre. Je trouve ça génial,
c'est ça qui est bien. Deuxième sujet, on part alors là c'est un peu space, faut que tu nous expliques, mais j'ai vite, moi qui ai des problèmes de dos, j'ai vite compris.
Oui, ça s'appelle Robert, c'est la société Kuka, je vous en parle régulièrement, qui devient des assistants high-tech en physiothérapie robotisée. Faut imaginer un grand bras robotisé ultra précis qui accompagne les mouvements d'un patient pour l'aider à rééduquer ses muscles après un accident ou une opération. Une fois le patient assis sur une sorte de siège selle.
Ouais, un taureau mécanique un peu.
C'est ça, exact. Le bras est capable de s'adapter à la force, à la vitesse et même à la progression du patient en temps réel. Dans la vidéo qu'on vous partage, le bras travaille main dans la main avec des médecins et des thérapeutes. L'idée, c'est répéter des mouvements précis sans fatigue avec une constante parfaite, chose qu'un humain, même super motivé, ne peut pas faire pendant des heures. Alors, le robot est équipé de capteurs qui analysent les performances en direct et ajustent l'exercice pour chaque patient. Si c'est trop difficile, ils réduisent la charge. Dans le cas contraire, ils augmentent l'effort. Le résultat, une rééducation plus rapide, plus précise et souvent plus motivante, car le patient peut suivre ses progrès presque comme dans un jeu vidéo. Le but de Robert n'est pas de remplacer les kinés, mais de les assister en apportant ce que la machine sait faire de mieux, précision, constance et adaptation millimétrée. Une belle alliance entre technologie et soins humains qui pourrait bien redéfinir la physiothérapie de demain.
Alors je préfère m'asseoir sur un robot comme ça que de me faire allonger sur une table avec une couverture sur le dos pendant trois quarts d'heure.
Tu m'étonnes, ouais, moi qui ai aussi mal au dos.
Certains physios que j'en ne salue pas. Ceux qui ont plein de cabines, méfiez-vous.
Et moi, enfin, j'aimerais surtout voir les médecins en fin de journée qui font des rodéos dessus. Ah oui.
Pour décompresser. Et là, tu nous as rapporté un robot qu'on a vu dans un film.
Oui, exactement, la science-fiction Popcorn qui devient réalité, le robot Cosmo, vedette du film The Electric State, très mauvais film, oui, sur Netflix, développé en vrai par le laboratoire Romella de l'UCLA.
Donc il est très pas bon.
Voilà. Rappelez-vous de ce robot avec une grosse tête jaune, de dessins animés, des bottes démesurées et une démarche maladroite mais attachante. C'est exactement ce qu'a réalisé l'équipe de chercheurs en seulement 8 mois pour donner vie à Cosmo. Alors, le vrai robot est doté de 28 degrés de liberté grâce à 20 actionneurs et 8 cerveaux moteurs, ce qui lui permet de marcher, de gesticuler et même de réagir aux interactions humaines. Sa tête, ses bras, ses jambes bougent de manière synchronisée pour exprimer des émotions renforcées par une voix qui a été pré-enregistrée et inspirée des dessins animés des années 90.
En même temps, c'était la seule chose à sauver dans le film.
Oui, c'est exactement ça, ouais. Au-delà du cinéma, Cosmo sert de plateforme de recherche. Il permet à Romella d'explorer comment les robots peuvent être conçus pour communiquer, interagir émotionnellement et captiver le public. Le projet pousse les limites de l'expressivité robotique et ouvre surtout des pistes pour des robots compagnons, des assistants éducatifs ou simplement des machines capables de créer un lien humain bien au-delà d'un simple gadget. Après avoir, là je trouve que le côté film est peut-être un peu trop marqué, mais c'est sympa.
En parlant de robots, t'en as vu au Japon?
Ouf. J'en ai vu surtout à l'Expo Universelle, c'est assez fou, ils se baladent comme ça. Au Japon, ça fait longtemps que c'est assimilé, que ça fait partie intégrante du quotidien des Japonais. Et c'est même plus trop. Oh, non, mais il y a un robot qui passe dans une gare en train de nettoyer ou de faire une tâche, c'est plutôt rigolo.
Il est dans son coin, il gueule, il fait sa vie, quoi.
C'est ça, il fait sa vie de robot.
C'était juste pour teaser un petit peu la deuxième heure, parce que tu vas nous parler de ton voyage japonais, ouais.
Oui, robot géant cette fois.
Waouh. Oh. Il nous reste une petite quarantaine de, même pas une vingtaine de secondes avant le flash. Ça va nous faire un joli palier de décompression avant de se prendre la dure réalité en pleine tête.
Oh là, oui.
Et là, le petit bulletin météo qui fait plaisir à la fin, quand même.
On va prendre des nouvelles de Blatton en Valais quand même, parce que ça, oui, se passe, oui, là ça craint quand même.
Ça pue un peu. Les infos, il est 16h sur Couleur 3.
RTS Couleur 3.
16h,